This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
Radio Dacha. France Inter. Le 18-20.
Le 18-20 ce soir avec l'opération Interclasse, la guerre en réalité virtuelle. Les lycéens de Jean-Jacques Rousseau à Sarcelles avec Michael Thébault. Un jour dans le monde numérique, cette semaine Julien Baldacchino sur quelques enjeux du numérique précisément à l'école et à l'université. 18h55, Arnaud Le Parmentier du quotidien Le Monde pour un édito sur le plan B en Europe. Mais tout de suite donc, retour à Londres.
Nicolas Demorand, un jour dans le monde.
Order! I am now going to suspend the sitting of the House. This House is now suspended, but please wait here.
Voilà, c'était cet après-midi au Parlement à Londres. Suspension de séance jusqu'à nouvel ordre. Suspension de séance, mais s'il vous plaît, restez où vous êtes. La situation est restée confuse. Elle l'est encore pendant de longues minutes. Des détonations à l'intérieur du Parlement. Un homme avec un couteau. L'image d'une voiture encastrée dans une grille. Des passants fauchés sur le pont. Theresa May évacuée vers Downing Street. La police londonienne a rapidement déclaré qu'il s'agissait d'une attaque terroriste. Bilan 1 ou 2 morts. Plusieurs personnes blessées grièvement, certaines dans un état catastrophique, disaient les autorités. On apprend également que 3 élèves français de Concarneau sont à compter parmi les blessés. Avant de rejoindre un certain nombre d'invités du côté de Londres, je salue Antoine Gignot. Bonsoir Antoine.
Bonsoir.
Correspondant de France Inter sur place. Antoine, la situation reste confuse. On sait pas exactement ce qui s'est déroulé ni dans quel ordre. La police londonienne demande d'ailleurs des témoignages pour reconstituer précisément le fil des événements.
Absolument. La police a mis au service des Londoniens un numéro d'urgence à appeler pour témoigner, pour envoyer aussi des photos avec une adresse internet, des photos, des vidéos, des images pour tenter de reconstituer le scénario de cette attaque qui est en fait une double attaque puisque dans un premier temps, une voiture gris foncé fonce sur les passants qui se trouvent sur le pont de Westminster juste devant le Parlement. Plusieurs personnes sont blessées, des personnes qui sont d'ailleurs restées à terre un certain laps de temps. On les a aperçues par hélicoptère. Et puis dans un deuxième temps, une personne qui est présentée comme potentiellement asiatique et avec un couteau d'une vingtaine de centimètres à la main se précipite à l'intérieur de l'une des entrées du Parlement et tente d'agresser un policier. Il est à ce moment-là neutralisé, abattu par la police. C'est à peu près tout ce qu'on sait sur les circonstances de ces deux attaques. Impossible d'en savoir plus, la police va communiquer ce soir et Theresa May qui a effectivement indiqué qu'elle était sur place mais qu'elle est en sécurité, qu'elle a été emmenée loin du lieu où s'est produit l'incident, va organiser une réunion de crise, ce sera ce soir dans la soirée.
Le bilan est fluctuant, là encore on parle d'un mort, deux morts, un certain nombre de blessés, état catastrophique disent les autorités londoniennes.
La police est restée très floue sur le nombre de blessés, ce qu'on a appris on le sait d'abord par un interne de l'hôpital Saint-Joseph, qui se trouve juste à côté de Westminster, à quelques rues de là. C'est là qu'ont été emmenés la plupart des blessés vers les urgences. Et l'un des internes explique qu'une femme au moins est décédée et que beaucoup de personnes sont blessées très grièvement. Il parle de blessures catastrophique. Dans un deuxième temps, Sky News a annoncé le décès d'une deuxième personne. Ce n'est pas tout à fait certain parce qu'une femme qui était tombée dans la Tamise et qui est très grièvement blessée a été repêchée, mais elle est encore en vie. Impossible donc de savoir pour le moment précisément s'il y a un ou deux morts ce soir. Ce qui est sûr, c'est que c'est une attaque qui a fait énormément de dégâts et qui a marqué les esprits. Beaucoup de personnes sont encore d'ailleurs enfermées à l'heure où je vous parle à l'intérieur du Parlement. Il y a des lycéens qui étaient en voyage, en visite scolaire. Il y a les parlementaires et puis il y a les journalistes qui assistaient à la session parlementaire et qui ont été cantonnés dans la salle de presse.
Dernière question Antoine, on vit à Paris, en France, avec la menace permanente d'un attentat. Qu'en est-il à Londres ?
C'est un peu plus diffus. Il y a ce discours de Sadiq Khan, le maire de Londres, en septembre dernier, qui rappelle qu'un incident est toujours possible, qu'un acte terroriste est toujours possible. Il disait « Rien n'est plus important pour moi que la sécurité des Londoniens ». On rappelle que l'alerte attentat a été activée. On est sur une échelle on est sur un niveau 4 sur une échelle de 5, ce qui est donc relativement important. Et pour autant, dans la rue, les policiers sont tout de même moins présents, moins visibles qu'à Paris, notamment lorsque vous allez dans les musées qui sont ici pour la plupart gratuits, lorsque vous passez les tourniquets, lorsque vous montez dans la Tate Britain par exemple, personne ne contrôle précisément les sacs. La présence policière et l'idée d'un attentat dans la tête des Londoniens reste présente parce qu'évidemment c'est une ville qui a été marquée notamment par les attentats de 2005, mais l'attention était jusqu'ici un peu moins élevée que ce qu'on connaît à Paris.
Antoine Gignot, correspondant de France Inter à Londres, merci. Nous sommes en ligne avec Denis McShane, ancien ministre britannique des Affaires européennes. Bonsoir Denis.
Bonsoir Nicolas.
Nous sommes avec Jonathan Fenby également. Bonsoir Jonathan.
Bonsoir.
Journaliste, essayiste britannique, vous avez été rédacteur en chef de The Observer, auteur d'une histoire de la France moderne. John Henley également avec nous. Bonsoir, John.
Bonsoir.
Grand reporter au Guardian. La première question pour vous, John, et puis on donnera la parole évidemment à tout le monde. Quelle a été votre réaction au surgissement du terrorisme dans la ville de Londres aujourd'hui?
Bah, très choqué, évidemment. Pour l'instant, comme a dit votre correspondant, on reste vraiment un peu dans le flou. On n'a pas de détails sur le nombre précis d'attaquants, s'il s'agit d'un seul homme ou s'il avait d'accomplices. On ne sait même pas s'il y a un lien, même si ça semble évident, mais ça n'a pas été confirmé, un lien entre l'incident sur le pont de Westminster où au moins deux personnes ont été tués et plusieurs blessés gravement. Et cet homme qui a réussi à pénétrer dans l'enceinte du palais de Westminster.
Oui, c'est-à-dire que la base factuelle n'est pas encore établie. Hein. On a du mal à faire le récit.
On n'a pas de chronologie précise. On n'a pas de détails sur l'attaquant ou les attaquants. On sait très très peu à part le fait que l'hôpital de Saint-Thomas, tout près de Westminster, a confirmé deux morts. Une femme a été repêchée de la Tamise, apparemment blessée, elle a dû sauter du pont. Donc, ces deux hommes, blessés ou morts, on ne sait pas, dans l'enceinte, dans la cour du palais de Westminster.
John Henley, donc, pour les derniers éléments disponibles, grand reporter au Guardian. Denis McShane, même question, votre réaction au retour du terrorisme à Londres?
Choqué, triste, c'est l'énorme symbole de la démocratie mondiale, j'imagine, le palais de Westminster. Mais c'est une attaque suicide bizarre. La voiture a traversé le pont de Westminster, qui est un pont comme le pont à Paris, absolument ouvert à tout le monde. Il a monté sur le trottoir, c'est là où des piétons étaient injuriés, au moins un qui est mort. Il a tourné à gauche dans le grand square de Parlement devant Westminster, caché de ramer, attaquer les grandes portes blindées, je vous assure, même un char d'assaut n'arrive pas à y pénétrer. Monsieur est sauté de cette voiture, il a couru vers un policier, commencé à le poignarder et tout de suite a été abattu. Donc, c'est une attaque suicide. Bien sûr, il y a 1400 pièces dans le palais de Westminster. C'est une énorme poussette et la police veut assurer avec la recherche dans toutes ces pièces qu'il n'y a pas quelqu'un qui est caché.
Mais, que vous disent, Denis McShane, que vous disent vos amis députés qui étaient en séance au moment où cette séance a été suspendue et Theresa May évacuée?
Choqué, triste. Ils savent que le palais de Westminster, le Parlement, est ultra sécurisé. Peut-être le Buckingham Palace et la reine d'Angleterre est plus sécurisé. Mais il y a des policiers avec des mitraillettes partout. Il y a des cherches. On ne peut pas y pénétrer. Ils sont passés sous des contrôles très très lourds et difficiles. Même les députés parfois. Et donc ils sont attristés. Moi, j'ai attendu un tel attaque plutôt en France avec l'élection présidentielle. Je vois pas l'Angleterre n'est pas pour le moment très impliqué contre la lutte contre le terrorisme, pas plus que normal. Les autres sujets sont à la une, Brexit et le reste. Et donc, la vie continue. L'arrêt de métro, la station de métro de Westminster est bien sûr fermée, mais pour le reste, les députés sont là, priés de rester calmement jusqu'à on a fait un grand fouillement, cherche dans tous les petites chambres.
Et une sécurisation absolue du Parlement. Restez avec nous, Denis McShane. Je voudrais donner la parole à Jonathan Fenby pour lui poser la même question. Le retour du terrorisme à Londres. Jonathan, comment l'avez-vous vécu?
Il se trouvait, j'étais assez près, à Trafalgar Square, assez près de Westminster. Et la première chose que j'ai connue, c'est quelqu'un qui m'a dit, descends pas vers Westminster, tous les bus sont arrêtés, le métro marche pas. Mais ce qui était extraordinaire, en rentrant à mon bureau après ça, tout était calme dans les rues. Il y avait quelques voitures de police qui passaient, évidemment. Mais il y a une calme. Et je crois que, en général, ça c'est une chose qu'on a remarqué, dont John Henley a parlé, c'est que si on compare Paris avec Londres, il y avait beaucoup moins le sens d'une alerte de danger là. On va à Paris et on voit l'opération Sentinelle, les policiers, les soldats, etc. Tandis qu'à Londres, il n'y avait vraiment pas un sentiment qu'on pouvait être l'objet d'une attaque. Mais ce que ça rappelle aujourd'hui, et évidemment, c'est moins grave, mais c'est la même technique qui a été utilisée à Nice et qu'on essaie d'utiliser aussi ailleurs, en Allemagne, etc. C'est clairement une technique là adoptée par les terroristes. Et ça nous rappelle que tout le monde peut être l'objet d'une attaque terroriste de nos jours.
Mais en tout cas, l'idée même d'attentat terroriste avait en quelque sorte quitté l'esprit des Londoniens. Je le disais tout à l'heure, en France, nous vivons désormais avec cette menace présente à l'esprit en permanence ou quasiment en permanence. Chez vous, à Londres, les choses étaient de l'ordre du souvenir ancien.
Oui, absolument, c'était ça. Et bon, c'est peut-être, je ne sais pas si c'est mal placé ou non de faire le lien, mais l'ancien chef de l'IRA, l'armée révolutionnaire irlandaise, est mort hier, Martin McGuinness. Et tout le monde, ça rappelait le terrorisme de jadis, de IRA, etc. Mais on vit beaucoup moins à Londres dans cette atmosphère d'attendre un attentat qui est le fait à Paris. Et effectivement, il n'y a pas eu depuis 2005 des grandes attaques à Londres. Mais ce qui est passé aujourd'hui, surtout l'endroit symbolique que l'assaillant a choisi pour l'attaque là, va, comme dit Denis McShane, va avoir, je vois, un énorme effet psychologique.
Merci à tous les trois, en tout cas, Jonathan Henley, grand reporter au Guardian, Jonathan Fenby, pardon, qui vous exprimiez à l'instant, journaliste, essayiste, ancien rédacteur en chef de l'Observer et l'auteur donc d'une histoire de la France moderne. Merci également à Denis McShane, l'ancien ministre britannique des Affaires européennes, qui était avec nous. Le Quai d'Orsay confirme à l'instant qu'il y a donc 3 élèves du lycée Saint-Joseph de Concarneau blessés dans cet attentat de Londres, et on attend ce soir la première ministre Theresa May pour une allocution. On l'a vu, on a pu le dire, la trame narrative, le récit même des faits est encore compliqué du côté de Londres. Dans quelques instants, Michael Thébault, Interclass, les Rolling Stones. ...18h35 sur Inter.
I saw her today at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you
want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find. Get my fair share of abuse. Singing words gonna vent our frustration. If we don't, we're gonna blow a 50-amp fuse. Sing it to me. You can't always get what you want. You can't always get what you want. Just my fun. You get what you need. Oh, baby, yeah. Oh. I went down to
Les Stones sur Inter, ailleurs dans le monde.
20 horas, 4 minutos.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Bonsoir Michael Thébault.
Bonsoir Nicolas.
On retournera bien sûr à Londres dans le journal de 19h, mais d'abord donc ailleurs dans le monde, entièrement consacré ce soir, Michael, à cette journée spéciale interclasse. Vous connaissez le principe, à l'occasion de la semaine de la presse et des médias dans l'école, collégiens, lycéens, enseignants interviennent sur l'antenne d'Inter tout au long de la journée. On a donc choisi de mettre en avant dans le 18-20 un projet inédit, le projet The Enemy.
Oui, projet imaginé et réalisé par le journaliste Karim Ben Khalifa, qui a longtemps été correspondant de guerre pour des publications prestigieuses, hein, Le Monde, Stern, Vanity Fair, New York Times Magazine, l'Irak, la Palestine, l'Afghanistan, Soudan, Iran ou Libye. Il a couvert, comme on dit, de très nombreux conflits et il a eu envie d'en parler autrement. Bonsoir Karim Ben Khalifa.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir et merci d'avoir participé à cette opération interclasse. Et bonsoir également à trois élèves de première du lycée Jean-Jacques Rousseau de Sarcelles qui ont aussi travaillé sur ce projet. Nouria Chafi, Giovanni Ficafi, Mariem Hamdouni, bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Et leur professeur de lettres modernes également avec nous, Aurélie Gélé, bonsoir. Bonsoir. D'abord, Karim, expliquez-nous simplement, quel était le but de ce projet The Enemy et comment concrètement ça fonctionne?
Alors, le but était de mettre l'audience entre deux ennemis. Moi, en tant que correspondant de guerre, je passe d'un côté, je passe de l'autre. J'humanise un côté, il m'humanise, je vais de l'autre côté, j'humanise, il m'humanise. Et finalement, je me rends compte qu'ils s'humanisent pas les uns entre les autres. Et c'est normal, c'est une guerre. Il y a des faits, il y a des choses très violentes qui arrivent. J'ai voulu recréer un environnement dans lequel l'auditeur ou le visiteur peut naviguer entre ces deux espaces, entre ces individus. Je leur pose exactement les mêmes questions et ils font face à ces ennemis comme vous me faites face, vraiment de photoréalistique. Vraiment, ils sont là. Enfin, ils vous en parleront après.
C'est ça, parce que la dimension forte et inédite, c'est donc précisément la réalité virtuelle. Expliquez-nous.
Ben, c'est une immersion et notre cerveau, il est connecté vraiment comme on le fait dans la vie de tous les jours, alors que quand on regarde une télévision, notre cerveau est connecté différemment. Dans la réalité virtuelle, on est vraiment en immersion. En plus, en l'occurrence, dans mon travail, il s'agit de se déplacer. Donc, il s'agit de s'approcher de ces individus et le fait de se déplacer nous rend vulnérables d'une certaine manière et nous propose une rencontre. Et les gens sortent de là, d'ailleurs, en parlant de rencontres. Ils n'ont pas vu un film, ils n'ont pas regardé un documentaire, ils ont rencontré des gens.
Qui avez-vous interviewé et où ?
J'ai rencontré des combattants palestiniens en Palestine, un soldat israélien, donc ça c'est sur le conflit israélo-palestinien. Je suis ensuite descendu au Congo, où j'ai rencontré un soldat gouvernemental et un combattant du FDLR. Et j'ai fini au Salvador, entre les Maras, les gangs armés.
Alors on va commencer justement par un premier extrait, on est au Congo, hein, c'est ce combattant du FDLR, les Forces démocratiques de libération du Rwanda. Il a été enrôlé très jeune et il nous raconte donc son enfance d'abord, les traumatismes de l'enfance, puis la guerre, la violence quotidienne, presque banale, écoutez.
Je m'appelle Moussa Ninyangega et Kenya Jean de Dieu, j'ai 32 ans. Mon grade est adjudant-chef au sein du FDLR. Mon ennemi est avant tout le Tutsi. Il est vrai que nous pouvons avoir d'autres ennemis au sein d'autres milices armées, mais le Tutsi est mon principal ennemi, avec d'autres qui se coalisent avec lui, comme par exemple les forces du gouvernement, les Maïmaï du NDC et de Mutomboki. Les Congolais sont mes ennemis puisqu'ils sont alliés aux Tutsis. Quand j'ai quitté le Rwanda, j'étais encore petit. On vivait dans les camps de réfugiés à Mugunga et ensuite à Kibumba, où on a été attaqués et chassés. Ceux qui nous ont attaqués ont tué ma mère et mon père devant mes yeux. Ils nous pourchassaient dans le camp de réfugiés à Kibumba. Ils couraient derrière nous et ils les ont attrapés. Ils ont tapé un coup de pioche sur la tête de l'un et sur l'autre un coup de gourdin également sur la tête. Ils ont tapé tellement fort qu'ils leur ont cassé le crâne et que leur cervelle s'est éclaboussée sur moi alors que j'étais encore tout petit. Maintenant, si ce n'est la volonté divine, je ne pense pas que la guerre puisse s'arrêter, après ces horribles choses que j'ai vues et qui m'ont affecté mentalement et physiquement. Ce que je dirais au sujet de la première fois où j'ai combattu, on s'est battu, et ensuite, parce qu'ils savaient que j'étais encore trop jeune, ils me demandaient de tuer à coups de gourdin tous ceux qu'ils venaient de capturer.
As-tu déjà tué ton ennemi ?
Oui, je les ai tués, beaucoup, énormément. Je les ai même tués à coups de houe, à coups de pioche. J'avais 14 ans et j'ai tué 9 personnes. Ils étaient tous Tutsis.
Alors les propos sont terribles, abominables. Nouria, Giovanni, comment vous avez réagi lorsque vous avez entendu et vécu cette première interview en réalité virtuelle ?
Moi je trouve que ça reste très impressionnant, parce qu'on les voit en face, on a l'impression qu'ils parlent à nous, parce que même quand on bouge...
Il faut dire que t'as un casque
oui,
3D.
Oui, on peut tourner autour d'eux, on les voit, ça reste impressionnant, moi je trouve. Je sais pas comment dire, c'est quelque chose qu'il faut vivre.
Tu as l'impression de dialoguer avec lui ?
Ouais, oui.
Giovanni, ça t'a fait la même sensation ?
Oui, et surtout, moi, j'ai appris beaucoup de choses parce qu'en fait, je suis congolais et par exemple, ce conflit, je connaissais pas. Et surtout, le fait que ça soit en immersion, je pense que ça m'a permis d'apprendre plus de choses et de me sentir plus concerné que si c'était, par exemple, un reportage à la télévision.
Alors, parole à la professeure de lettres modernes, Aurélie Gellé. Cet apport de la réalité virtuelle, comment vous l'avez appréhendé ?
Alors moi déjà, réalité virtuelle en tant que prof de français, pour moi c'est un oxymore. C'est cette figure de style est un peu étrange. Et puis, en quoi c'est intéressant pour une prof de lettres ? Ben déjà, c'est les mêmes procédés que le réalisme. Alors, réalisme, mouvement littéraire du 19e. C'est les mêmes procédés. Faire vrai, faire vraisemblable. Et on s'est beaucoup posé la question de savoir avec les élèves si ce qu'on avait sous les yeux, ce qu'on avait expérimenté, c'était du journalisme. Et les conclusions sont mitigées. Il y en a pour qui c'est vraiment du journalisme, il y en a pour qui...
On va le voir après, oui.
C'est plutôt, ça tend vers l'œuvre artistique, en fait. Et bon, là, on se rapproche du réalisme du 19e, mais voilà, plus moderne.
C'est la prof de français, de lettres modernes qui parle. Nouria, le fait que ce soit pas une interview, justement, comme on les entend à la radio, comme on les voit à la télé, ça change quoi, finalement ?
Ça change beaucoup, parce qu'on a l'impression que c'est comme si on... C'est différent, ça change, c'est innovant, en fait. C'est une nouvelle façon... De transmettre l'information, moi, je trouve. Je trouve qu'on apprend mieux et on comprend mieux.
Et est-ce qu'en termes de crédibilité, c'est la même chose ? Giovanni disait, ça m'a aidé à comprendre ce conflit que finalement, je voyais de loin. Est-ce que ça te semble crédible ?
Oui, même mieux. J'ai l'impression que, vu qu'on voit la personne en face de nous, on a l'impression qu'elle parle avec nous, donc c'est comme si c'était réel. Donc, comme si, vu que la personne, on la voit en face de nous, donc c'est comme si c'était un dialogue, donc je trouve que l'information elle est plus réelle.
Ce qui est revenu hier pendant le débat, parce qu'on a un peu préparé l'émission, c'est donc cet aspect d'immersion et cette impression d'aller chercher l'information à la source, comme on se glisse dans la peau du reporter. On a l'impression que l'interviewé nous glisse des informations, qu'on suit son cheminement.
Voilà, c'est
ça. Et ça donne l'impression d'un média sans média, en fait.
Alors, je vous propose deux autres extraits. D'abord, interview d'Abou Khaled. C'est un jeune Palestinien de la bande de Gaza qui se définit comme combattant au nom de la paix, au nom d'une solution à deux États. Écoutez.
Mon ennemi, ce sont les forces d'occupation et l'injustice, où qu'elles se trouvent. Une force d'occupation cherche toujours à détruire le pays qu'elle occupe. Selon moi, ce que nous menons est un combat légitime dans le but de retrouver nos droits, et ce n'est pas de la violence. La paix pour les Palestiniens est une exigence purement palestinienne. C'est pourquoi elle ne sera possible qu'après le départ des forces d'occupation de notre terre. Nous voulons ressentir cette paix, vivre côte à côte avec Israël dans les frontières de 1967, et avoir un État palestinien indépendant ayant Jérusalem pour capitale. C'est pourquoi j'espère, mais sans certitude, j'espère que les 20 prochaines années verront la paix et la fraternité entre les Palestiniens et ceux qu'ils combattent pour défendre leur liberté.
Alors avant de réagir, autre extrait, interview cette fois de Jorge Alberto Avalos, membre donc d'une maras, hein, ces gangs de rue ultra-violents du Salvador. Question posée, qu'est-ce que la paix à ses yeux et quel est son rêve ?
Quand ma fille est née, et quand elle fêtait son anniversaire, c'était en 92, j'ai invité ma fille à manger, et on a passé toute la journée à s'amuser, à jouer ensemble. Elle était toute petite, elle marchait déjà, et elle m'appelait papa. Avant, personne ne m'avait appelé papa. Ça a été la seule. Quand elle m'a dit papa, je me suis senti tellement heureux. Mon rêve et mon désir, c'est de passer plus de temps avec ma famille, voir ma fille et mes petits-enfants réunis en famille, vivre ensemble dans une maison sans avoir de problème.
Qu'est-ce que ces deux rêves vous inspirent, les trois élèves ? Mariam, peut-être ?
Oui, vous pouvez répéter. Si vous
qu'est-ce que ces deux rêves vous inspirent ? L'un espère la paix, mais y croit assez peu. Et l'autre, finalement, a un rêve tout simple. Il veut être avec sa fille, avec sa famille. Et pourtant, tous les deux sont au quotidien dans une forme de violence ou d'ultra-violence.
Oui, effectivement, c'est compliqué. On a deux choix opposés complètement. Et m'inspirer, non, pas trop. Parce que on les voit. Quand on s'approche d'eux, on va chercher l'information. Ils nous parlent du pourquoi, du comment. Et ouais, c'est vraiment super parce que moi, comme disait Giovanni, je connaissais pas le conflit du Congo aussi, Salvador. Je connaissais que la guerre entre franco-palestiniens. Palestiniens et israéliens, pardon. Ouais. Et ouais, voilà.
Karim Ben Khalifa, ces réponses vous étonnent, vous satisfont?
En fait, moi, ce que j'entends et ce que j'ai vu beaucoup, puisqu'on a développé ça sur près de 3 années, c'est que là, les étudiants aujourd'hui ou les gens qu'on a fait passer dedans parlent d'une expérience. Et c'est là où moi, en tant que journaliste, sans m'en rendre compte et en faisant tout ça, j'ai vraiment découvert que finalement, au-dessus de l'histoire, au-dessus de raconter une histoire, les gens vivent véritablement une expérience. Ils en parlent comme une expérience, l'expérience d'une rencontre, une nouvelle ouverture par rapport à un sujet, mais du fait de l'immersion, du fait de ce sentiment de rencontre, les gens ont même le souvenir d'une rencontre. Et tout ça, une rencontre, c'est une expérience. Rencontrer quelqu'un, c'est une expérience.
Aurélie, je le disais à l'instant, ça pose quand même des questions sur le métier de journaliste. Et toi, justement, Mariam Hamdouni, tu as fait ce reportage en posant cette question. Est-ce que finalement, ces interviews en réalité virtuelle, c'est encore du journalisme, ton reportage ?
Pour la plupart d'entre nous, The Enemy était la première expérience de réalité virtuelle. La première rencontre avec un grand reporter en vrai. La première rencontre avec des soldats qui s'adressent à nous. Aucun des combattants qui se sont présentés à nous n'était armé. Cela donne une image inattendue de la guerre. Pour du journalisme, on ne s'attendait pas du tout à ça. Florian, lui, le professeur d'histoire-géographie du lycée de Sarcelles, est venu tester The Enemy avec nous. Sajed lui a demandé si ça ne donnait pas une vision trop édulcorée de la guerre.
Non, c'est simplement au contraire, on enlève finalement ce qui cache souvent la compréhension et la visibilité de la guerre. C'est-à-dire que quand on voit la guerre, qu'est-ce qui nous intéresse ? C'est souvent pour ça dans les films d'action ou autre, hein. C'est le sang, les explosions, les balles, le bruit, etc. Mais finalement, le plus important, c'est pourquoi on s'entretue. Donc de ce point de vue-là, au contraire, je pense que ça permet d'enlever un peu tout un filtre qui masque l'essentiel dans la représentation du fait guerrier.
Pour notre groupe, c'était aussi la première écoute d'un reportage de plus de 50 minutes sans s'arrêter. Rien à voir avec les infos en continu à la télé qui se répètent tout le temps. Rien à voir avec le journal de 20h, donc nous avons trouvé que c'était une façon étrange de faire de l'information. Finalement, pour notre professeur d'histoire-géographie, la question se pose aussi.
Il y a une forme de message qui me semble être un message globalement pacifiste, hein, parce qu'en mettant comme ça en parallèle des combattants d'un même conflit qui ne savent pas vraiment pourquoi ils se battent, même si quand on leur pose la question, ils fournissent une réponse, mais qui est assez peu convaincante finalement, ça montre selon moi une forme d'absurdité de la guerre, ce en quoi il me semble donc que c'est un journalisme engagé dans la dénonciation précisément de la guerre.
Donc cela montre une façon inédite de faire du journalisme avec des témoignages du pourquoi et du comment, tout en se concentrant aussi sur la réalité virtuelle et pas que les conflits et la guerre.
Reportage signé Mariam Hamdouni, merci et bravo, ta chute comme on dit chez nous. Une façon inédite de faire du journalisme, vous êtes d'accord autour de cette table, Giovanni ? Façon inédite de faire du journalisme ?
Oui, parce que le journalisme, là, c'est avec de la réalité virtuelle. Et moi, je pense que ça peut se faire plus tard encore. Ce qu'a fait Karim Ben Khalifa, c'est inédit parce qu'on n'a jamais vu ça, mais que ça se fera dans le futur.
Aurélie Gélé, ça apporte quoi de plus? On parlait du journal de 20h dans le sujet. Qu'est-ce que ça apporte de plus par rapport à un reportage classique, avec une forme classique?
Ce que ça apporte
en termes d'infos,
en termes d'informations, je dirais. En termes d'information, en fait, c'est compliqué. Il faudrait leur demander ce que les élèves ont retenu, par exemple, des différents conflits. Et je sais même pas si c'était vraiment le propos, en fait, de Karim, puisque c'est une sorte de vagabondage entre les différents ennemis. On leur pose les mêmes questions sur leurs rêves. On se rend compte qu'ils ont les mêmes rêves. Sur leurs projets, on se rend compte qu'ils ont des projets similaires. Voilà, c'est...
Bah là, on a compris avec Giovanni quand même que ça l'avait aidé à mieux comprendre ce conflit Congo et Rwanda.
Oui, il comprend les oppositions. Après, je suis pas sûre sur le contexte géopolitique au Congo. Alors, ce soit vraiment le propos.
Nouria, allez, en 30 secondes, ça c'est pas facile à faire. En 30 secondes, qu'est-ce que tu retiens de tout ça, de cette expérience, comme dit Karim?
Moi je trouve que c'est une belle expérience, puisque du coup on apprend des nouveaux conflits. Moi par exemple, sur le conflit du Salvador, je ne connaissais pas du tout. Et je trouve que c'est une nouvelle façon de faire de l'information. Je trouve que même que c'est mieux, je trouve que c'est plus intéressant, puisqu'on se trouve en face de la personne. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Ça m'a beaucoup intéressée, j'ai beaucoup aimé. Et j'espère que ça va fonctionner, que ce sera beaucoup plus ouvert au grand public.
Bon, bah écoute, c'est la fin de notre job à nous. Merci Nouria, Chafi, merci Giovanni, Fika Fika, Mariem Hamdouni, donc tous les trois en classe de première au lycée Jean-Jacques Rousseau à Sarcelles avec votre prof de lettres modernes, Aurélie Gélé. Et merci beaucoup Karim Ben Khalifa. Et je précise que l'expérience est à vivre, puisqu'il faut le dire comme ça, hein. Mm-hmm. Ce sera fin mai à l'Institut du Monde Arabe à Paris. Merci à tous.
Merci à vous.
Il est 18h52, merci d'écouter Inter. Dans quelques instants, Arne Le Parmentier.
كان يا ليلى بش كبر رزق راسش ست الناس كباري انيني باي مانش علو يمتي قرون دينك يهونش وزاريت اثيوبيا من تتبك علش فتصوم إثيوبيا ويت أنا ما دي ماما وزريت إثيوبيا كون جيت إني نيم باي ترامج ودت بيت وجيبا دبا باي النكا ومالن أنشين بكفوي مياي
Et vous êtes toujours sur Inter, il est 18h54, l'heure de l'édito.
France Inter, le 18-20, un jour dans le monde.
Arnaud Le Parmentier, bonsoir.
Bonsoir Nicolas.
Éminente plume du quotidien Le Monde, votre plan B pour l'Europe en 3 minutes 30.
Ben oui, me voici, je me prends pour Jean-Luc Mélenchon. À moi, mon plan B pour refonder l'Europe à l'approche des 60 ans du traité de Rome, qui visait à créer, rappelons-le, une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens. Alors nous ne sommes pas aveugles, Nicolas, nous voyons bien la désaffection des peuples européens, mais l'Europe n'est pas morte, loin de là. Elle a survécu à la crise de l'euro et la faillite de la Grèce, à la vague des réfugiés, au Brexit et même à la montée des populistes quelques jours après l'échec de Geert Wilders aux Pays-Bas, en attendant l'élection présidentielle française. Ils font donc réfléchir à reconstruire. L'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine a appelé à faire une pause. Ce terme vise à casser une idée. L'Europe serait comme une bicyclette forcée à aller toujours vers plus d'intégration, faute de quoi elle tomberait. Certes, 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 mais la pause est aussi impossible. Ne rien faire, c'est se condamner au délitement. L'Europe doit donc faire mouvement en avant ou en arrière, mais elle doit reprendre ses esprits et examiner toutes les options.
Et ça, c'est le mérite du livre blanc, Arnaud, présenté début mars par le président de la Commission.
Mais oui, Jean-Claude Juncker a exploré plusieurs pistes. Alors, la continuité, continuer de rafistoler l'euro, colmater Schengen, bricoler une Europe de la défense. Bon an, mal an, l'Europe ne disparaîtra pas, mais s'étiolera inexorablement, alors qu'elle ne représentera plus que 4% de la population mondiale en 2060, contre un quart en 1900. À l'inverse, le scénario ultime, celui de Guy Verhofstadt, consiste à faire beaucoup plus ensemble. Bref, le saut politique privilégié par quelques fédéralistes, mais politiquement irréaliste en période de populisme.
Alors, votre plan B, on y va.
Alors, l'idée, c'est de faire moins, mais plus fort. Se concentrer sur quelques missions précises. Deux préalables, Nicolas, dire non définitivement à l'adhésion de la Turquie et négocier un accord de grande puissance avec elle. Deuxièmement, sortir les Grecs de l'euro tout en effaçant leurs dettes. Ils s'en sortiront mieux sans les contraintes européennes et nous aussi. Ensuite, il faut donner des gages aux populations. Elles trouvent que Bruxelles les enquiquine avec des réglementations excessives. Honnêtement, Nicolas, je suis sûr que vous êtes incapable de me donner une réglementation qui vous gêne personnellement. Mais on vous entend sans cesse protester sur la santé, l'environnement, les OGM, l'agriculture, ça ne vous gêne pas. Mais bon, on va donner des gages. Sacrifions la PAC, la politique de la santé, de l'environnement. Tout cela doit revenir aux États et nous leur souhaitons bon courage.
Voilà, donc ça c'est pas un plan B, c'est une table rase. Il reste quoi pour l'Europe?
Je construis l'Europe comme une vraie fédération à l'endroit et pas à l'envers comme le firent à juste titre les pères fondateurs avec l'acier, le charbon puis l'agriculture. Alors une fédération, Nicolas, si vous avez lu vos livres, cela contrôle la monnaie, la sécurité, les relations extérieures. Il faut donc, un, achever l'euro avec une harmonisation fiscale et budgétaire forte pour empêcher les divergences du début des années 2000 qui ont fait exploser les pays du sud de l'Europe. Alors, en contrepartie, on pourrait effacer les erreurs du passé, c'est mon petit grain socialiste. On peut envisager de mutualiser les dettes accumulées pendant la grande crise financière de 2008 à 2012. Ensuite, il faut sauver Schengen, une étape évidente, elle est d'ailleurs en cours, c'est d'avoir une police fédérale des frontières. Et troisièmement, il faut renforcer les pouvoirs de l'Europe sur les relations extérieures. Reprenons, les négociations commerciales doivent être du ressort exclusif des institutions européennes. On ne peut pas continuer à avoir un accord avec le Canada pris en otage par le socialiste Paul Magnette, ministre-président de Wallonie. Enfin, sur la défense, Nicolas, c'est à la mode, mais ne soyons pas naïfs. La défense est déjà fédéralisée sur le territoire européen, cela s'appelle l'OTAN. L'Europe de la défense doit se concentrer uniquement sur les interventions extérieures. Et sur ce point, il faut une triple alliance, France, Allemagne, Royaume-Uni. Tant pis pour le Brexit et sans les autres. Alors voilà mon plan B.
Eh ben c'est pas mal. Merci Arnaud Le Parmentier. Un mot du téléphone sonne à 19h20 consacré aux affaires judiciaires. Les affaires judiciaires qui émaillent la campagne. La journée d'hier a encore été folle avec les nouvelles informations du Canard enchaîné, le réquisitoire supplétif dans l'affaire des emplois fictifs et cerise sur le gâteau à gauche. Cette fois-ci, la démission du ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux. Sur les affaires et leur traitement médiatique, vos questions 01 45 24 7000, le journal à suivre.